Le juge d'instruction discuta. Admettons, jusqu'à plus ample informé, que le baron ait été tué par Antoinette Bréa. Il faudrait encore expliquer quel chemin elle a pu suivre pour sortir après le crime, pour rentrer après le départ du sieur Charles et pour sortir de nouveau avant l'arrivée du commissaire. Vous avez une opinion là-dessus, monsieur Ganimard ?
Aucune.
Alors ? Ganimard eut l'air embarrassé. Enfin, il prononça, non sans un effort visible.
Tout ce que je puis dire, c'est que je retrouve ici le même procédé que dans l'affaire du billet 514-23. Le même phénomène que l'on pourrait appeler la faculté de disparition. Antoinette Bréa apparaît et disparaît dans cet hôtel aussi mystérieusement qu'Arsène Lupin pénétra chez Maître de Tinan et s'en échappa en compagnie de la Dame Blonde. Ce qui signifie que je ne peux m'empêcher de penser à ces deux coïncidences, tout au moins bizarres. Antoinette Bréa fut engagée par la sœur Auguste il y a 12 jours, c'est-à-dire le lendemain du jour où la Dame Blonde me filait entre les doigts. En second lieu, les cheveux de la Dame Blonde ont précisément cette couleur violente, cet éclat métallique à reflets d'or que nous retrouvons dans ceci.
De sorte que, suivant vous, Antoinette Bréa
n'est autre que la Dame Blonde.
Et que Lupin, par conséquent, a machiné les deux affaires.
Je le crois.
Il y eut un éclat de rire. C'était le chef de la sûreté qui se divertissait. Lupin. Toujours Lupin. Lupin est dans tout. Lupin est partout.
Il est où il est, scanda Ganimard vexé.
Encore faut-il qu'il ait des raisons pour être quelque part, observa Monsieur Dudouis. Et en l'espèce, les raisons me semblent obscures. Le secrétaire n'a pas été fracturé, ni le portefeuille volé. Il reste même de l'or sur la table.
Oui, s'écria Ganimard. Mais le fameux diamant.
Quel diamant ?
Le diamant bleu, le célèbre diamant qui faisait partie de la couronne royale de France et qui fut donné par le duc d'A à Léonide L et à la mort de Léonide L, racheté par le baron d'Autrec en mémoire de la brillante comédienne qu'il avait passionnément aimée. C'est un de ces souvenirs qu'un vieux parisien comme moi n'oublie point.
Il est évident, dit le juge d'instruction, que si le diamant bleu ne se retrouve pas, tout s'explique.
Mais où chercher ?
Au doigt même de monsieur le baron, répondit Charles. Le diamant bleu ne quittait pas sa main gauche.
J'ai vu cette main, affirma Ganimard en s'approchant de la victime. Et comme vous pouvez vous en assurer, il n'y a qu'un simple anneau d'or.
Regardez du côté de la paume, reprit le domestique. Ganimard déplia les doigts crispés. Le chaton était retourné à l'intérieur, et au cœur de ce chaton resplendissait le diamant bleu.
« Fichtre !» murmura Ganimard, absolument interdit. « Je n'y comprends plus rien. »
« Et vous renoncez, je l'espère, à suspecter ce malheureux Lupin !» ricana Monsieur Dudouis. Ganimard prit un temps, réfléchit, et riposta d'un ton sentencieux.
C'est justement quand je ne comprends plus que je suspecte Arsène Lupin.
Telles furent les premières constatations effectuées par la justice au lendemain de ce crime étrange. Constatations vagues, incohérentes, et auxquelles la suite de l'instruction n'apporta ni cohérence ni certitude. Les allées et venues d'Antoinette Bréa demeurèrent absolument inexplicables, comme celle de la Dame Blonde. Et pas davantage, on ne sut quelle était cette mystérieuse créature aux cheveux d'or qui avait tué le baron d'Autrec et n'avait pas pris à son doigt le fabuleux diamant de la couronne royale de France. Et, plus que tout, la curiosité qu'elle inspirait donnait au crime un relief de grand forfait dont s'exaspérait l'opinion publique. Les héritiers du baron d'Autrec ne pouvaient que bénéficier d'une pareille réclame. Ils organisèrent avenue Henri Martin, dans l'hôtel même, une exposition des meubles et objets qui devaient se vendre à la salle Drouot. Meubles modernes et de goût médiocre, objets sans valeur artistique, mais au centre de la pièce, sur un socle tendu de velours grenat, protégé par un globe de verre et gardé par deux agents, étincelait la bague au diamant bleu. Diamant magnifique, énorme, d'une pureté incomparable et de ce bleu indéfini que l'eau claire prend au ciel qu'il reflète, de ce bleu que l'on devine dans la blancheur du linge. On admirait, on s'extasiait, et l'on regardait avec effroi la chambre de la victime, l'endroit où gisait le cadavre, le parquet démuni de son tapis ensanglanté, et les murs surtout, les murs infranchissables au travers desquels avait passé la criminelle. On s'assurait que le marbre de la cheminée ne basculait pas, que telle moulure de la glace ne cachait pas un ressort destiné à le faire pivoter. On imaginait des trous béants, des orifices de tunnels, des communications avec les égouts, avec les catacombes. La vente du diamant bleu eut lieu à l'hôtel Drouot. La foule s'étouffait et la fièvre des enchères s'exaspéra jusqu'à la folie. Il y avait là le tout Paris des grandes occasions. Tous ceux qui achètent et tous ceux qui veulent faire croire qu'ils peuvent acheter. Des boursiers, des artistes, des dames de tous les mondes, deux ministres, un ténor italien, un roi en exil qui, pour consolider son crédit, se donna le luxe de pousser, avec beaucoup d'aplomb et une voix vibrante, jusqu'à 100 000 francs. 100 000 francs ! Il pouvait les offrir sans se compromettre. Le ténor italien en risqua 150. Une sociétaire des Français, 175. À 200 000 francs, néanmoins, les amateurs se découragèrent. À 250 000, il n'en resta plus que deux. Hirschmann, le célèbre financier, le roi des mines d'or, et la comtesse de Crozon, la richissime américaine dont la collection de diamants et de pierres précieuses est réputée. 260 000, 270 000, 75, 80, proférait le commissaire, interrogeant successivement du regard les deux compétiteurs. 280 000 pour madame, personne ne dit mot.
300 000 ?
Oh !
Murmura Hirschmann. Un silence. On observait la comtesse de Crozon. Debout, souriante, mais d'une pâleur qui dénonçait son trouble, elle s'appuyait au dossier de la chaise placée devant elle. En réalité, elle le savait, et tous les assistants le savaient aussi, l'issue du duel n'était pas douteuse. Logiquement, fatalement, il devait se terminer à l'avantage du financier, dont les caprices étaient servis par une fortune de plus d'un demi-milliard. Pourtant, elle prononça
« 305 000 !»
Un silence encore. On se retourna vers le roi des mines, dans l'attente de l'inévitable surenchère. Il était certain qu'elle allait se produire, forte, brutale, définitive. Elle ne se produisit point. Hirschmann restait impassible, les yeux fixés sur une feuille de papier que tenait sa main droite, tandis que l'autre gardait les morceaux d'une enveloppe déchirée.
« 305 000 !»
répétait le commissaire.
« Une fois ! Deux fois ! Il est encore temps ! Personne ne dit mot ! Je répète ! Une fois ! Deux fois ! »
Hirschmann ne broncha pas. Un dernier silence. Le marteau tomba.
« 400 000 !»
clama Hirschmann, sursautant, comme si le bruit du marteau l'arrachait de sa torpeur. Trop tard. L'adjudication était irrévocable. On s'empressa autour de lui. Que s'était-il passé? Pourquoi n'avait-il pas parlé plus tôt? Il se mit à rire.
« Que s'est-il passé ? Ma foi, je n'en sais rien. J'ai eu une minute de distraction.
Est-ce possible?
Mais oui, une lettre qu'on m'a remise. Et cette lettre a suffi pour me troubler, oui, sur le moment.
Ganimard était là. Il avait assisté à la vente de la bague. Il s'approcha d'un des garçons de service.
« C'est vous, sans doute, qui avez remis une lettre à Monsieur Herschmann ?»«
Oui. »«
De la part de qui ?»«
De la part d'une dame. »«
Où est-elle ?»«
Où est-elle ?»« Tenez, monsieur, là-bas, cette dame qui a une voilette épaisse. »«
Et qui s'en va ?»«
Oui. » Ganimard se précipita vers la porte et aperçut la dame qui descendait l'escalier. Il courut. Un flot de monde l'arrêta près de l'entrée. Dehors, il ne la retrouva pas. Il revint dans la salle, aborda Herschmann, se fit connaître et l'interrogea sur la lettre. Herschmann la lui donna. Elle contenait, écrite au crayon, à la hâte, et d'une écriture que le financier ignorait, ces simples mots. « Le diamant bleu porte malheur, souvenez-vous du baron d'Autrec. » Les tribulations du diamant bleu n'étaient pas achevées. Et, déjà connu par l'assassinat du baron d'Autrec et par les incidents de l'hôtel Drouot, il devait, 6 mois plus tard, atteindre à la grande célébrité. L'été suivant, en effet, on volait à la comtesse de Crozon le précieux joyau qu'elle avait eu tant de peine à conquérir. Résumons cette curieuse affaire dont les émouvantes et dramatiques péripéties nous ont tous passionnés et sur laquelle il m'est enfin permis de jeter quelques lumières. Le soir du 10 août, les hôtes de M. et Mme de Crozon étaient réunis dans le salon du magnifique château qui domine la baie de la Somme. On fit de la musique. La comtesse se mit au piano et posa sur un petit meuble, près de l'instrument, ses bijoux, parmi lesquels se trouvait la bague du baron d'Autrec. Au bout d'une heure, le comte se retira, ainsi que ses deux cousins, les Dandelles, et Madame de Réal, une amie intime de la comtesse de Crozon. Celle-ci resta seule avec M. Bleichen, consul autrichien, et sa femme. Ils causèrent, puis la comtesse éteignit une grande lampe située sur la table du salon. Au même moment, M. Bleichen éteignit les deux lampes du piano. Il y eut un instant d'obscurité un peu effarant. Puis le consul alluma une bougie et tous trois gagnèrent leurs appartements. Mais à peine chez elle, la comtesse se souvint de ses bijoux et enjoignit à sa femme de chambre d'aller les chercher. Celle-ci revint et les déposa sur la cheminée sans que sa maîtresse les examinât. Le lendemain, Madame de Crozon constatait qu'il manquait une bague. La bague au diamant bleu. Elle avertit son mari. Leur conclusion fut immédiate. La femme de chambre étant au-dessus de tout soupçon, le coupable ne pouvait être que M. Bleichen. Le comte prévint le commissaire central d'Amiens, qui ouvrit une enquête, et discrètement organisa la surveillance la plus active pour que le consul autrichien ne pût ni vendre ni expédier la bague. Jour et nuit, des agents entourèrent le château. 2 semaines s'écoulent sans le moindre incident. Monsieur Bleichen annonce son départ. Ce jour-là, une plainte est déposée contre lui. Le commissaire intervient officiellement et ordonne la visite des bagages. Dans un petit sac dont la clé ne quitte jamais le consul, on trouve un flacon de poudre de savon. Dans ce flacon, la bague. Madame Bleichen s'évanouit. Son mari est mis en état d'arrestation.